Le récit du prêtre. L'homme qui pleura Dieu. Quelquefois, la ligne de séparation est bien mince entre le zèle orthodoxe et l'apostasie, murmura le père Lennart Hoyt. C'est ainsi que commença l'histoire du prêtre. Plus tard, dictant le récit dans son persoc, le consul s'en souvint en un seul bloc, abstraction faite des pauses, des défaillances de la voix, des faux départs et redondances inévitables dans tout récit humain fait oralement. Lennart Hoyt était un jeune prêtre qui était né, avait grandi et s'était fait récemment ordonner sur le monde catholique de Passem, où sa première mission extraplanétaire avait consisté à escorter l'estimé père jésuite Paul Durée dans sa retraite tranquille sur la planète colonie d'Hyperion. En d'autres temps, le père Durée serait certainement devenu évêque, voire pape. Grand et maigre, une figure d'ascète, les cheveux blancs noblement dégagés sur un front large, les yeux trop remplis de l'amertume de l'expérience pour pouvoir dissimuler leur douleur, Paul Durée se considérait comme un disciple de saint Teilhard, en même temps qu'il était archéologue, ethnologue et éminent théologien jésuite. En dépit du déclin de l'Église catholique au rang de culte à demi oublié et toléré uniquement à cause de son caractère bizarre et de son isolement par rapport aux courants principaux de la vie de l'hégémonie, la logique jésuite n'avait nullement perdu de son mordant, et le père Durée gardait la conviction que la Sainte Église catholique et apostolique continuait de représenter pour l'humanité le meilleur et le dernier espoir d'immortalité. Durant l'enfance de Lennart Hoyt, le père Durée était une sorte de figure divine qu'il avait eu l'occasion d'apercevoir en de rares occasions lors des visites espacées du prêtre au petit séminaire où il étudiait, ou bien encore plus tard, lorsque le jeune séminariste s'était rendu à deux ou trois reprises au Nouveau Vatican. Durant les études de Hoyt au Grand Séminaire, Durée était déjà sur des fouilles archéologiques importantes, patronnées par l'Église, sur la planète voisine d'Armagast. Au retour du jésuite, quelques semaines après l'ordination de Hoyt, cela avait été la confusion. Personne, en dehors des plus hautes sphères du Nouveau Vatican, ne savait exactement ce qui s'était passé. Il circulait des bruits d'excommunication et même de comparution devant le Saint-Office de l'Inquisition, une congrégation en sommeil depuis 400 ans en raison de la période de troubles qui avait suivi la mort de la Terre. Au lieu de tout cela, le père Durée avait demandé qu'on l'envoie sur Hyperion, une planète dont la plupart des gens ne connaissaient que le bizarre culte du Gritch, qui y trouvait son origine, et le père Hoyt avait été désigné pour l'accompagner. C'était une mission ingrate, qui le ferait voyager sous les pires aspects combinés d'apprenti, d'escorte et d'espion, sans même la satisfaction de connaître un monde nouveau. Il avait en effet pour instruction de veiller à ce que le père Durée débarque à l'astroport d'Hyperion, puis de remonter à bord du même vaisseau pour le voyage de retour au Retz. Tout ce que l'évêché offrait à Lennart Hoyt, c'était 20 mois de fugue cryotechnique, encadrés de quelques semaines de voyage à l'intérieur du système, avec un déficit de temps qui le ferait retourner sur Passem, avec un retard de 8 ans par rapport à ses ex-compagnons séminaristes, dans leur quête d'une carrière au Nouveau Vatican ou d'une affectation de missionnaire. Lié par ses vœux d'obéissance et rompu à la discipline sacerdotale, le père Lennart Hoyt avait accepté sans rien demander. Leur vaisseau de transport, le Nadia Oleg, n'était qu'un vieux sabot rouilleux incapable de produire la moindre gravité artificielle quand il n'était pas sous la poussée de ses réacteurs. Il n'offrait ni hublot ni distraction à bord, à l'exception des steam sims injectés dans l'inforéseau pour maintenir les passagers dans leur hamac ou dans leur couchette de fugue. Une fois sortis de leur état de fugue, les voyageurs, pour la plupart des travailleurs originaires des planètes extérieures ou des touristes ayant choisi la classe économique, une proportion non négligeable de mystiques du Gritch et autres candidats au suicide, dormaient dans le même hamac ou la même couchette, mangeaient de la nourriture recyclée dans des réfectoires infâmes et se débrouillaient de manière générale, comme ils pouvaient pour lutter contre l'ennui et le mal de l'espace durant les 12 jours en impesanteur que durait la descente sur Hyperion à partir du point de sortie du spin. Le père Hoyt n'apprit pas grand-chose du père Duret durant ses journées d'intimité forcée. Il n'eut pas, en particulier, le moindre éclaircissement sur les événements d'Armagast qui avaient envoyé son aîné en exil. Le jeune prêtre avait programmé son implant Persoc pour qu'il lui fournisse le plus possible de données sur Hyperion, et il se considérait déjà, à 3 jours de l'arrivée à la surface, comme un expert sur tout ce qui touchait à cette planète. De nombreux catholiques se rendent sur Hyperion, mais il n'est fait mention de l'existence d'aucun diocèse sur cette planète, avait murmuré Hoyt un soir où ils bavardaient dans leur hamac à gravité zéro, pendant que la plupart des autres passagers étaient plongés dans des stim-sims érotiques. « Je présume que vous êtes chargé d'y établir une mission d'évangélisation ?»«
Nullement, » avait répondu le père Duret. « Les braves gens d'Hyperion n'ont jamais cherché à m'imposer leurs croyances religieuses, aussi je ne vois pas pourquoi je les agresserais de mon prosélytisme. En vérité, mon intention est de gagner le continent méridional, Aquila, et de m'enfoncer à l'intérieur des terres à partir de la ville de Port-Romance. » Mais je ne porterai pas l'habit d'un missionnaire. Je m'efforcerai de mettre en place une station de recherche ethnologique le long de la faille.
Une station de recherche ? Avait répété le père Hoyt, surpris. Il avait fermé à demi les paupières pour consulter son implant. Puis il avait regardé de nouveau le père Duret dans les yeux en disant « Ce secteur du plateau du Pignon est inhabité. Les forêts des flammes en interdisent totalement l'accès durant la majeure partie de l'année. » Le père Duret sourit tout en hochant la tête. Il n'avait pas d'implant, et son antique Persoc n'avait pas quitté ses bagages de toute la durée du voyage.
« Il existe un accès, » dit-il, « et la région n'est pas tout à fait inhabitée. Les Bicuras l'occupent. »«
Les Bicuras, » fit le père Hoyt en fermant les yeux, « ne sont qu'une légende.
Cherchez sous la rubrique Mamet Spedling. »
Le père Hoyt ferma de nouveau les yeux. L'index général lui apprit que Mamet Spedling était un explorateur de second ordre, affilié à l'Institut Shackleton sur Renaissance Minor, près d'un siècle et demi standard plus tôt. Il avait communiqué à l'Institut un bref rapport dans lequel il relatait son expédition à l'intérieur des terres, à partir de la toute nouvelle Port-Romance, à travers des marécages qui avaient été depuis reconvertis en plantations, pour l'exploitation des fibroplastes. Ils disaient avoir traversé les forêts de flammes à la faveur d'une de leurs rares périodes d'inactivité et grimpé assez haut sur le plateau du Pignon pour arriver jusqu'à la faille et rencontrer une minuscule tribu d'humains qui correspondait à la description des légendaires Bicuras. Les courtes explications de Spedling faisaient état d'une hypothèse selon laquelle ces humains auraient été les survivants d'une colonie appartenant à un vaisseau d'ensemencement porté disparu 3 siècles auparavant. D'après la description donnée par l'explorateur, il était clair que le groupe présentait tous les symptômes d'une dégénérescence culturelle classique due à l'isolement total, à la consanguinité et à une adaptation trop poussée. Assez brutalement, Spedling écrivait « Il suffit de passer quelques heures avec eux pour constater que ces Bicuras sont trop stupides, léthargiques et primitifs pour mériter d'être étudiés sérieusement. » En fait, la forêt des flammes menaçait de reprendre son activité et Spedling ne tenait pas à perdre davantage de temps en leur compagnie. Il avait donc repris le chemin de la côte à marche forcée, perdant 4 de ses porteurs indigènes, la totalité de son équipement et de ses papiers, et même son bras gauche au cours des 3 mois qui lui furent nécessaires pour traverser la forêt durant cette période d'inactivité.
« Mon Dieu !»
s'était exclamé le père Hoyt en se laissant aller en arrière au creux de son hamac. « Mais pourquoi tenez-vous à retrouver ces Bicuras ?»«
Pourquoi pas ?»
avait simplement répondu le père Duret.
« Nous avons si peu de renseignements sur eux. »
« Nous ne savons presque rien d'Hyperion en général ?» avait répliqué nerveusement Hoyt. Pourquoi pas les tombeaux du temps ou le légendaire Gritch au nord de la chaîne brisée d'Écus ? Ils ont au moins le mérite d'être célèbres.
Justement, murmura le père Duret. De combien d'études savantes ont-ils été l'objet ?
Des centaines peut-être.
Des milliers même.
Le vieux prêtre avait entrepris de bourrer sa pipe et de l'allumer, ce qui n'était pas un mince exploit sous gravité zéro.
D'ailleurs,
reprit-il, même si une créature qu'on appelle le Gritch a une existence réelle, elle n'est pas d'essence humaine. Et j'ai un faible pour ce qui est humain.
Je vois, avait dit Hoyt, cherchant désespérément quelque argument puissant à lui opposer. Mais l'épicura ne constitue qu'un mystère mineur. Tout ce que vous pouvez vous attendre à trouver, au mieux, c'est quelques douzaines de sauvages vivant dans une région si brumeuse, si reculée et si peu importante que même les satellites cartographiques de la colonie ne les ont jamais repérés. Pourquoi les choisir comme sujet d'étude alors qu'il reste sur Hyperion de grands mystères à élucider, comme les labyrinthes? Saviez-vous, perdurer, qu'Hyperion fait partie des 9 planètes labyrinthiennes?
Naturellement, répliqua Durée en exhalant un nuage de fumée approximativement hémisphérique que les courants d'air, au bout d'un moment, effilochèrent en une série d'arborescences dentelées.
Mais les labyrinthes ont déjà leurs chercheurs et leurs admirateurs dans tout leur être, Lénard. Et leur galerie existe sur les 9 mondes depuis, je ne sais pas moi, 1 demi-million d'années standards peut-être. 750 000 ans, plus probablement. Leur secret n'est pas près d'être percé.
Mais combien de temps encore durera la culture Bicura avant d'être absorbée par la colonisation moderne, ou plus vraisemblablement encore, d'être purement et simplement balayée par les circonstances?
Hoyt haussa les épaules. Il n'existe peut-être déjà plus à l'heure qu'il est. L'expédition de Spedling ne date pas d'hier et aucun autre rapport sur eux ne nous est jamais parvenu. Si leur tribu est éteinte, tous les efforts déployés, tout le déficit de temps accumulé pour arriver jusqu'à eux auront été gaspillés en pure perte.
C'est exact, fit placidement le père Duret en tirant sur sa pipe.
Ce n'est qu'au cours de la dernière heure qu'il passa en sa compagnie, durant leur descente vers la surface, que le père Hoyt avait pu avoir un léger aperçu des véritables pensées qui habitaient l'esprit de son compagnon de voyage. Le limbe d'Hyperion était, depuis plusieurs heures, éblouissant d'une blancheur mêlée de striures vertes et lapis-lazuli, lorsque soudain, le vieux vaisseau de descente avait plongé dans les couches supérieures de l'atmosphère, sa baie transparente momentanément baignée de flammes, avant de planer silencieusement à une 60aine de kilomètres au-dessus des sombres masses nuageuses et des océans illuminés par la lumière stellaire, tandis que le Terminator bondissant du lever de soleil d'Hyperion se précipitait vers eux, tel un fantasmagorique ras de marée de lumière.
« Somptueux !»
avait murmuré le père Paul Duret, plus pour lui-même qu'à l'intention de son jeune compagnon.
« C'est un spectacle extraordinaire. En des moments pareils, il me semble que je perçois, ô combien confusément, le sacrifice que le Fils de Dieu a dû consentir pour accepter de devenir le Fils de l'homme. »
Hoyt aurait voulu alors poursuivre cette conversation, mais le père Duret était demeuré plongé dans sa contemplation, à travers la baie transparente, du spectacle offert par Hyperion. 10 minutes plus tard, il se posait sur l'astroport de Kitts, et le père Paul Duret disparaissait dans un tourbillon de formalités douanières et de récupération des bagages. 20 minutes après, un Lénard Hoyt morose et désabusé quittait la planète pour retrouver le Nadia Oleg et la fugue cryotechnique.
5 semaines de mon temps réel plus tard, je retournais sur Passem, raconta le père Hoyt. J'avais perdu 8 années, mais, pour une raison ou pour une autre, le sentiment de perte que j'éprouvais allait bien au-delà de ce simple fait. Dès mon retour, l'évêque m'informa qu'il n'avait pas reçu la moindre nouvelle de Paul Duret durant les 4 années qui venaient de s'écouler. Le nouveau Vatican avait dépensé une fortune en demande de renseignements par Mégatrans, mais ni les autorités coloniales, ni le consulat de Kitts n'avaient pu retrouver trace du prêtre disparu.
Le père Hoyt s'interrompit pour porter son verre d'eau à ses lèvres, et le consul en profita pour commenter.
Je me souviens très bien des recherches. Je n'ai jamais connu Duret personnellement, bien sûr, mais nous avons fait tout notre possible pour retrouver sa trace. Théo, mon adjoint, a dépensé une énorme énergie au fil des ans pour essayer de résoudre ce mystère. Mais à l'exception de quelques rapports contradictoires selon lesquels il aurait été aperçu 1 ou 2 fois à Port-Romance, nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Encore ces rapports remontaient-ils aux toutes premières semaines de son arrivée, c'est-à-dire il y a des années de cela. Il y avait partout sur son chemin des plantations, pour la plupart dépourvues d'équipements radio ou persoc. Cela s'explique par le fait que, sur beaucoup d'entre elles, on se livrait non seulement à des cultures de fibroplastes, mais aussi à celles clandestines de toutes sortes de drogues illégales. Je suppose que nous n'avons jamais eu affaire à la bonne personne, sur la bonne plantation. Mais je peux affirmer au moins que le dossier du père Duré n'avait pas encore été classé lorsque j'ai quitté Hyperion.
Le père Hoyt hocha la tête.
J'ai débarqué sur Kitts un mois après la prise de fonction de votre successeur au consulat. L'évêque a été étonné que je me porte volontaire pour y retourner. Sa sainteté elle-même m'a donné audience. Je n'ai séjourné sur Hyperion qu'un peu moins de 7 mois en temps local. Lorsque j'ai regagné le Retz, je savais tout sur ce qui est arrivé au père Duré.
Il mit la main sur les 2 carnets à la couverture tachée.
Si vous voulez que j'achève mon histoire, dit-il, il faut que je vous lise des passages de son journal.
Le vaisseau-arbre Yggdrasil était maintenant orienté de telle sorte que son immense tronc occultait le soleil et que la plateforme de la salle à manger ainsi que la voûte de feuilles au-dessous d'elle étaient plongées dans la nuit. Cependant, au lieu de voir les étoiles comme des têtes d'épingles brillant au-dessus d'eux, comme cela eût été le cas s'ils s'étaient trouvés à la surface d'une planète, ils les voyaient dans le ciel tout autour d'eux comme 1 million de petits soleils. Hyperion formait une sphère qui grossissait à vue d'œil, tel un missile mortel qui se précipitait sur eux.
« Lisez donc !» fit Martin Silenus.
Extrait du journal de Paul Duré.
Premier jour. Mon exil commence. Je suis un peu embarrassé pour dater ce journal. Selon le calendrier monastique de Passem, aujourd'hui serait le 17e jour du mois de Thomas de l'année de Notre Seigneur 2732. Selon la chronologie de l'hégémonie, nous serions le 12 octobre 589 PC. Mais en comptant comme les habitants d'Hyperion, c'est du moins ce que m'a expliqué le vieil employé touridé de l'obscur hôtel où je suis descendu, ce jour est le 23e du mois de Lysius, le dernier de leurs 7 mois de 40 jours, soit de l'an 426 AAVS, après l'accident du vaisseau spatial, soit la 128e année à compter du début du règne du roi Billy le Triste, qui ne règne plus depuis une bonne centaine de ces mêmes années. Au diable toutes ces complications. J'appellerai ce jour le premier jour de mon exil. Journée épuisante, étrange de se sentir harassé juste après avoir dormi des mois durant, mais il paraît que c'est une sensation courante pour quelqu'un qui sort de fugue. Chaque cellule de mon corps ressent la fatigue de ces derniers mois de voyage, même si mon esprit les a oubliés pour sa part. Je n'ai pas le souvenir de m'être jamais senti aussi fatigué par un voyage, même lorsque j'étais moins âgé. J'aurais aimé faire plus ample connaissance avec le jeune Hoyt. C'est un garçon qui me paraît tout à fait convenable, avec ses yeux brillants de bon catéchumène. Ce n'est certes pas la faute des jeunes dans son genre si notre religion est sur le déclin. C'est simplement que la sérénité naïve et bon enfant de nos prêtres ne peut rien faire pour arrêter le lent glissement vers l'oubli auquel semble irrémédiablement condamner l'Église. Il faut dire que je n'ai pas fait grand-chose, moi non plus, pour empêcher ce glissement. Merveilleux spectacle que ce nouveau monde vers lequel le vaisseau de descente nous conduit. Je distingue 2 des 3 continents, Equus et Aquila. Le 3e, Ursa, n'est pas visible. L'arrivée à Kitts se fait dans la confusion des formalités de police et de douane qui durent des heures et des moyens de transport pour gagner le centre de la cité. Image fugitive de chaînes de montagnes au nord, voilée d'une brume légère et bleutée. Collines basses couvertes d'arbres orange et jaune, ciel pastel aux couches superposées bleues et vertes, soleil un peu trop petit mais plus brillant que sur Passem. Les couleurs ici semblent plus vives de loin et se diluent en se dissociant lorsqu'on s'approche, comme dans un tableau de peinture pointilliste. La grande statue du roi Billy le Triste, dont j'avais tant entendu parler, m'a étrangement déçu. Vue de la route, elle ressemble plus à une ébauche grossièrement taillée à même la montagne noire qu'à la silhouette royale à laquelle je m'attendais.
C'est vrai que le roi poète dépressif semble bouder d'une manière qu'il aurait peut-être approuvée au-dessus de cette cité disparate de 500 000 âmes. La ville, proprement dite, semble divisée entre la masse labyrinthienne des taudis et des tavernes, que les gens d'ici appellent Jacktown, et le vieux centre de Keats qui ne date au demeurant que de 4 siècles, et qui est tout en pierre polie et stérilité étudiée. Je pense en faire prochainement la visite. J'avais prévu de séjourner 1 mois dans cette ville, mais j'ai déjà hâte de poursuivre mon voyage. Si seulement tu pouvais me voir en ce moment, mon seigneur et cher Édouard. Puni, mais toujours impénitent. Plus seul que jamais, mais étrangement satisfait de mon nouvel exil. Si mon châtiment pour les excès passés dus à mon trop grand zèle doit être le bannissement jusqu'au 7e cercle de la désolation, Hyperion représente de loin le meilleur choix. Je pourrais en oublier la mission que je me suis moi-même assignée de retrouver ces lointains Bicura. Sont-ils réels? Je pencherai plutôt pour la négative ce soir. Et me contenterai de passer le reste de mes jours dans cette capitale provinciale d'un monde lointain et oublié de tous, même de Dieu, semble-t-il. Mon exil n'en serait pas moins total. Ah, mon cher Édouard, ami de mon enfance et de mes études, qui ne furent certes pas aussi brillantes ni aussi orthodoxes que les tiennes. Nous voilà maintenant tous deux très vieux, mais il me manque par rapport à toi 4 années de sagesse, et je suis au fond toujours le même jeune garçon espiègle et impénitent que tu as autrefois connu. J'espère que tu es toujours en vie et que tu pries de temps en temps pour moi. Trop là pour continuer ce soir. Je vais me coucher. Demain, visiter Keats, faire un bon repas et se mettre en quête des moyens de transport vers le sud et vers Aquila. 5e jour. Il y a une cathédrale à Keats, ou plutôt, il y avait. Elle est abandonnée depuis au moins 2 siècles standards. Son transept en ruine s'ouvre sur le ciel bleu-vert, l'une de ses tours est éventrée, et l'autre n'est plus qu'une carcasse de vieilles pierres et de poutrelles de renforcement rouillées. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard, en errant, un peu perdu, le long des berges du fleuve Ouli, dans la partie la moins peuplée de la ville, où le vieux centre cède progressivement la place à Jacktown, dans un fouillis d'entrepôts gigantesques qui cache ici la vue des tours en ruine, jusqu'à ce que le promeneur se retrouve dans une ruelle en cul-de-sac, face au mur de cette cathédrale, avec sa salle du chapitre à moitié effondrée dans le lit du fleuve, et sa façade piquée par les vestiges de la statuaire sinistre et apocalyptique de la période expansionniste post-égérienne. Je m'avançais parmi les éboulis et les ombres diaprées jusqu'au milieu de la nef. L'évêché de Passem n'avait fait aucune mention d'une présence catholique sur Hyperion, et encore moins d'une cathédrale. Il n'est guère plausible que la petite colonie du vaisseau d'ensemencement accidenté il y a 4 siècles ait pu fournir une congrégation assez nombreuse pour justifier la présence d'un évêque, et encore moins d'une cathédrale. Mais elle était pourtant là. Je furetais au milieu des ombres de la sacristie. La poussière et le plâtre en suspension dans l'air formaient comme un encens qui délimitait un double ray de soleil tombant d'étroites fenêtres situées dans les hauteurs de l'édifice. Je ressortis à la lumière et m'approchai d'un autel dépouillé de tout ornement, à l'exception des crevasses et des fissures dues aux pierres et à la maçonnerie qui se détachaient des voûtes. La grosse croix, dont la trace était encore visible sur le mur de l'est, derrière l'autel, s'était détachée, elle aussi, et gisait en 1000 éclats de céramique au milieu d'un tas de pierres. Machinalement, sans préméditation aucune, je me plaçai derrière l'autel, les bras levés, et me mis à célébrer l'Eucharistie. Il n'y avait dans cet acte aucune intention cachée, ni parodique, ni mélodramatique, ni symbolique. C'était juste le réflexe involontaire d'un prêtre qui avait dit la messe presque quotidiennement durant plus de 46 années de sa vie et qui affrontait maintenant la perspective de ne plus jamais participer au rite rassurant de cette célébration. J'eus un véritable choc lorsque je m'aperçus tout à coup que je n'étais pas seul. La vieille femme, qui tenait lieu de congrégation, était agenouillée au quatrième rang, et le noir de sa robe et de son fichu se fondait si bien dans l'ombre que seul le clair ovale de son visage, abondamment ridé, avait attiré mon attention. Elle semblait flotter, légère et désincarnée, dans l'obscurité. Stupéfait, j'interrompis la litanie de la consécration. Elle regardait dans ma direction, mais quelque chose dans ses yeux, malgré la distance, me donna immédiatement à penser qu'elle était aveugle. Durant quelques instants, je demeurai incapable de prononcer un mot de plus, écarquillant les yeux dans les rayons de poussière en suspension qui baignaient l'autel, essayant de m'expliquer cette apparition spectrale en même temps que je cherchais les raisons de ma propre présence ici et de mon comportement singulier. Je retrouvai enfin ma voix et l'appelai, mais les mots n'avaient pas fini de résonner dans la nef lorsque je m'aperçus qu'elle s'était déplacée. J'entendis le frottement de ses pieds sur les dalles du sol, il y eut un crissement, puis un bref éclat de lumière me permit d'apercevoir fugitivement sa silhouette à l'autre bout de la cathédrale sur la droite. Je me protégeai des rayons de lumière qui m'aveuglaient, puis me frayai un chemin au milieu des décombres jusqu'à l'endroit où s'élevait autrefois la grille de l'autel. Je l'appelai de nouveau en m'efforçant de la rassurer, en lui criant de ne pas avoir peur, bien que ce fût plutôt moi que des frissons glacés parcouraient. Je finis par me lancer à sa poursuite. Cependant, lorsque j'atteignis le côté abrité de la nef, elle avait déjà disparu. Une petite porte s'ouvrait sur la salle du chapitre en ruine et sur la berge du fleuve. Mais la vieille femme n'était nulle part en vue. Je retournai dans l'obscurité de la cathédrale, et j'aurais sans doute fini par attribuer cette apparition à mon imagination fatiguée par tant de mois passés en état de fugue cryotechnique, si je n'avais pas retrouvé une preuve tangible et irréfutable de son passage. Dans l'obscurité glacée des vieilles pierres, solitaire, une petite chandelle votive de couleur rouge se consumait en crépitant, avec une flamme vacillante sous l'effet d'invisibles courants d'air. Je suis fatigué de cette ville. Je suis las de ses prétentions païennes et de ses fausses légendes. Hyperion est un monde de poètes sans poésie. Keats est un mélange de mauvais goût clinquant et de faux classicisme allié à la vigueur aveugle d'une ville champignon. Il y a dans cette ville 3 temples zen gnostiques et 4 mosquées panislamiques, mais j'ai l'impression que les véritables lieux du culte locaux sont les innombrables tavernes, saloons et bordels, ainsi que les immenses marchés où s'échangent les cargaisons de fibroplastes venues du sud, sans compter les temples où des âmes perdues s'efforcent d'oublier leur désespoir suicidaire, en célébrant le culte du Gritch derrière une façade de faux mysticisme. Toute cette planète, en fait, pue le mysticisme dépourvu de la moindre révélation. Qu'elle aille au diable. Demain, je prends la route du sud. Ils ont bien des glisseurs et autres avions sur cette planète absurde, mais, pour le commun des mortels, à ce qu'il semble, le voyage d'un de ces maudits continents insulaires à l'autre ne saurait se faire que par voie maritime, ce qui, m'a-t-on affirmé, dure une éternité. Ou au moyen de l'un de ces énormes dirigeables de transport qui ne partent de Kitz qu'une seule fois par semaine. 10e jour. Les animaux. La première expédition qui est descendue à la surface de cette planète devait faire une fixation sur les animaux. Le cheval, l'ours, l'aigle. 3 jours durant, nous avons descendu la côte orientale d'Écus, dont cette partie au contour tourmenté porte le nom de crinière. Le 4e jour, nous avons traversé un détroit de la mer du Mitan jusqu'à une grande île appelée la Clé du Chat. Aujourd'hui, nous débarquons du fret et des passagers à Félix, la capitale de l'île. D'après ce que je peux voir du débarcadère et de la tour d'amarrage, il ne doit guère y avoir plus de 5000 habitants dans cette agglomération de baraques branlantes. Le vaisseau va bientôt nous conduire, sur 800 kilomètres, à travers un archipel qui porte le nom de 9 queues. Ensuite, il nous restera à affronter 700 kilomètres de pleine mer, à travers l'équateur de la planète, jusqu'à la côte nord-ouest, nommée le Bec, du continent Aquila. Toujours sous le signe des animaux. Donner à ce moyen de transport le nom de dirigeable relève de la plus haute fantaisie sémantique. C'est plutôt une large plateforme de lévitation avec des cales assez vastes pour contenir toute la ville de Félix en plus des milliers de balles de fibroplast qu'elle emportait habituellement. En attendant, les éléments moins importants de la cargaison, c'est-à-dire nous, les passagers, doivent s'accommoder comme ils peuvent des installations existantes. J'ai aménagé un petit coin près de l'une des portes de chargement, avec un lit pliant et tous mes bagages qui comprennent 3 malles de matériel d'expédition. Non loin de moi se trouve une famille de 8 personnes, des ouvriers indigènes qui s'en retournent à leur plantation après leur voyage d'emplette semestrielle à Kitz. Je dois dire que l'odeur et le bruit des cochons ou des hamsters en cage qu'ils rapportent avec eux ne me gênent pas tant, certaines nuits, que les cocoricos intempestifs de leurs malheureux volatiles désorientés. Encore les animaux. 11e jour. Dîner ce soir dans le salon situé au-dessus du pont promenade avec le citoyen Eremis Denzel, professeur à la retraite d'une petite université de planteurs des environs d'Endymion. Il m'a appris que la première expédition sur Hyperion n'avait pas fait de fixation sur les animaux et que les noms officiels des continents ne sont nullement Equus, Ursa et Aquila, mais Creighton, Allensen et Lopez. Il s'agit, paraît-il, de 3 obscurs fonctionnaires de l'ancienne administration topographique. Je préfère encore les noms d'animaux. Après un excellent dîner, je suis venu m'asseoir tout seul un moment sur le pont promenade pour contempler le coucher du soleil. L'endroit est relativement abrité du vent par les conteneurs qui occupent l'avant du bâtiment, et la brise légère est chargée de sel. Au-dessus de moi, j'aperçois les flancs orange et vert de l'immense enveloppe gonflée de gaz qui nous transporte au milieu des îles. La mer est d'un bleu lapis intense avec des reflets verdoyants qui imitent les couleurs du ciel. Quelques hauts cirrus espacés captent les dernières lueurs du soleil trop petit d'Hyperion et s'embrasent comme du corail incandescent. Il n'y a aucun bruit à part le lointain murmure des turbines électriques. 300 mètres plus bas, l'ombre d'une énorme créature sous-marine en forme de raie manta avance de conserve avec le dirigeable. Il y a quelques secondes, un oiseau ou un insecte de la taille et de la couleur d'un colibri, mais avec des ailes diaphanes de près d'1 mètre d'envergure, s'est immobilisé dans les airs à quelques mètres de moi pour m'observer, avant de plonger vers la surface de la mer, les ailes repliées. Je me sens très seul ce soir, Édouard. Cela irait beaucoup mieux si j'avais la certitude que tu es vivant, en train de jardiner ou d'écrire dans ton bureau. Je pensais que mes voyages ébranleraient mes conceptions télardiennes d'un Dieu qui réunit le Christ de l'évolution, le personnel, l'universel, l'en haut et l'en avant, mais je ne vois pour le moment aucun signe d'un tel changement. Il se fait nuit. Je me fais vieux. Je ne peux pas encore dire du remords, Édouard, votre éminence, à l'idée d'avoir falsifié des pièces issues des fouilles d'Armagaste. Mais si ces artefacts avaient indiqué la présence ici d'une culture de type christique, à 600 années-lumière de l'ancienne Terre, et près de 3000 ans avant que l'homme eût quitté la surface de la planète mère, était-ce un si grand péché que d'interpréter des données pour le moins ambiguës de telle manière qu'elles auraient pu entraîner un renouveau du christianisme à notre époque? C'en était un, bien sûr, mais certes pas, à mon avis, parce qu'il est répréhensible de falsifier des données scientifiques. Plutôt à cause du péché bien plus grave, qui consiste à penser que le christianisme peut être sauvé. L'Église se meurt, Édouard. Et pas seulement notre bien-aimée branche de l'arbre sacré, mais avec elle tous ses rejetons, ses repousses, ses résidus et ses chancres. Le corps du Christ se meurt aussi sûrement que cette pauvre enveloppe charnelle usée qui est la mienne, Édouard. Toi et moi, nous le savions très bien en Armagaste, où le soleil de sang n'illuminait plus que la poussière et la mort. Nous le savions aussi
Dans la fraîcheur de l'été verdoyant, nous avons prononcé nos vœux pour la première fois au collège.
Nous le savions déjà, enfants, quand nous jouions dans les prairies paisibles de Villefranche-sur-Saône. Et nous ne l'avons jamais oublié. La nuit est tombée maintenant. J'ai écrit ces mots à la faible lueur qui descend des fenêtres du salon du pont supérieur. Les étoiles forment d'étranges constellations dans le ciel. La mer du mi-temps luit, la nuit, d'une phosphorescence glauque et malsaine. Je vois une masse sombre à l'horizon dans la direction du sud-est. C'est peut-être un grain, ou encore notre prochaine île, la troisième des neuf queues. Et quelle mythologie parle de chat à neuf queues? Je n'en connais pas pour ma part. Dans l'intérêt de l'oiseau que j'ai aperçu tout à l'heure, si toutefois c'était un oiseau, je prie pour que ce soit une île et non un grain.
28e jour. Voilà une semaine que je me trouve à Port-Romance et j'ai déjà vu 3 cadavres. Le premier a été rejeté par la mer, grillé et gonflé, parodie d'être humain venu s'échouer sur la vase à quelque distance de la tour d'amarrage, le premier soir de notre arrivée en ville.